fait. Donc, nous accueillons Laurent Pellier. Merci d'être venu jusqu'à nous. Professeur des universités, Laurent Pellier enseigne l'histoire moderne à l'université d'Angers. Il est spécialiste des cultures de l'alimentation et de l'histoire du végétal. Il a été titulaire de la chaire CNRS Histoire de l'alimentation des mondes modernes de 2010 à 2015 et il est aussi membre du conseil scientifique de l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation. Il a notamment dirigé une vaste Histoire de l'alimentation de la préhistoire à nos jours, ouvrage paru en 2021 qui a reçu le prix Anthony Rollin. Certains titres de ces ouvrages sont alléchants, par exemple Festin, ripaille et bonne chère au grand siècle. Celui qui nous a conduit à l'invité s'intitule Gourmandise, histoire d'un péché capital. Il est paru en 2010, il a eu le prix Jean Prémolière et il a été récemment réédité en livre de poche. Il est facile de filer la métaphore, un ouvrage délicieux, nourrissant, qui se dévore. Tous ces qualificatifs sont pertinents. La journée est consacrée aux notions de partage, de convivialité et de solidarité. Sa conférence s'intitule « Bonne chère, convivialité et christianisme, une histoire des plaisirs de la table en Occident ». Voici comment il la présente, cette conférence. Cette conférence abordera l'invention de la notion de bonne chère et la codification de la convivialité en Occident afin de rendre convenable et recommandable les plaisirs de la table nécessaire au commerce entre les hommes dans un temps long marqué par le christianisme. Ce processus culturel majeur repose notamment sur le rapport des hôtes à leur corps et au corps des autres convives, dicté par l'élaboration de bonnes manières de table comme moyen de désanimaliser les mangeurs à partir des 12e et 13e siècles. L'Église catholique a joué un rôle crucial dans ce processus de contrôle des corps et des appétits. Néanmoins, une règle des civilités chrétiennes n'est pas parvenue à s'imposer, celle de ne pas parler à table de ce que l'on mange. C'est une présentation savante, mais vous allez voir comment Florent Pellier nous aide à revisiter bien des idées reçues. Je termine par une note personnelle, puisque j'ai vu son livre, ça avait fait la fiche de lecture, vous pouvez y avoir accès. J'offre maintenant ce livre quand je suis invitée à dîner, un petit livre de poche. Gourmandise d'aimer, gourmandise des mots, c'est un beau partage. Sa conférence sera suivie par un temps d'échange.
Merci pour cette présentation. Je voudrais commencer par remercier Monsieur Julien Motte de m'avoir invité, de m'avoir convié à participer à votre université d'été automnale autour de cette question de la nourriture. Et je voudrais donc commencer par un cas de conscience, commencer par de la casuistique, commencer par... Si mon diaporama fonctionne, normalement c'est bon, parce que moi j'ai pas le retour. Bon. Donc commencer par un cas de conscience et un des dictionnaires de casuistique de référence sous l'Ancien Régime est celui du prêtre Jean Pontas. C'est une documentation exceptionnelle, les dictionnaires de cas de conscience, parce qu'on a des exemples très précis des questions qui pouvaient être posées à des prêtres dans la France d'Ancien Régime et on a les réponses développées pour savoir si oui ou non il s'agit d'un péché, véniel, capital. Et je partirai donc de cette question, Sidonius, personne ne s'appelle Sidonius au XVIIe ou au XVIIIe, c'est un nom qui est issu du théâtre jésuite. Sidonius a de coutume de manger et de boire jusqu'à se rassasier. Et il le fait principalement, j'insiste bien sur principalement, pour goûter le plaisir qu'il trouve dans les viandes et dans le vin. Commet-il en cela quelques péchés lorsqu'il n'y excède pas jusqu'à en être incommodé? La réponse est, ce n'est pas un péché. Car il est bien vrai qu'on peut sans aucun péché ressentir, même volontairement, le plaisir que Dieu a attaché à l'action de manger ou de boire lorsqu'on ne se le propose pas pour fin de cette action et qu'on ne mange ou qu'on ne boit que dans l'intention de réparer les forces du corps et pour conserver la santé. Et ça, c'est un élément qui est essentiel, le plaisir de la nourriture, le plaisir ressenti lorsque l'on mange est totalement licite dans le cadre de l'enseignement de l'Église. C'est un élément qu'on retrouve chez de nombreux ecclésiastiques pour le Moyen Âge et l'Ancien Régime. Exemple d'un sermon d'un jésuite, Vincent Audry, du XVIIIe, où on nous parle également du plaisir attaché au goût, sans lequel nous aurions la même aversion pour la nourriture que nous en avons pour les médicaments, mais la nourriture n'est pas un médicament, d'où l'importance du plaisir. Et vous avez une forme de providentialisme chrétien, avec l'idée que dans sa création, Dieu a mis du goût dans les aliments et a permis aux hommes de ressentir le plaisir alimentaire, et que tout ça est donc sain, puisque voulu par Dieu pour répondre à l'injonction biblique essentielle, croissez, multipliez. Croissez, multipliez, qui est une injonction qui apparaît dès l'Ancien Testament, repose autour de cette question du plaisir, et notamment du plaisir charnel, qui peut être un plaisir licite, à partir du moment où on est sur cette idée de croissez, multipliez. C'est un élément qu'on retrouve également, par exemple, sous la plume de Bossuet, où on nous parle bien de l'importance donc de la nourriture pour répondre à la faim et à la soif, donc le besoin physiologique, mais un besoin physiologique qui est toujours associé au plaisir, et un plaisir qui est sain. On nous y invite encore par le plaisir qu'elle a attaché aux fonctions naturelles de boire et de manger. Elle a rempli de bien toute la nature, et vous voyez qu'on est totalement dans cette idée d'un providentialisme chrétien. Élément qu'on va retrouver également dans les catéchismes. Les catéchismes se développent en Occident après le Concile de Trente. Ça fait partie de la reconquête catholique face aux défis protestants. Au XVIIe siècle, on a une multiplication de catéchismes rédigés par les évêques tridentins. Là, je vous donne un exemple. Charles Joachim Colbert, dans son catéchisme, vous avez une question autour de la nourriture, et autour du péché capital de gourmandise. Et ce péché de gourmandise est présenté comme un amour déréglé. Un amour déréglé. Et donc la question destinée aux enfants, c'est pourquoi dites-vous un amour déréglé ? La réponse, pour faire comprendre que l'amour du boire et du manger peut aussi être juste et raisonnable. Juste et raisonnable. Et donc la question qu'on va se poser dans cette conférence, c'est qu'est-ce qu'on peut comprendre derrière raisonnable ? Comment l'Église rend raisonnable le plaisir ressenti par l'acte alimentaire. Et cette question du providentialisme chrétien et du fait que prendre du plaisir à table est également une façon de rendre hommage à l'œuvre de création de Dieu, on le retrouve également dans la littérature culinaire de l'époque moderne, qui est une façon de se dédouaner de la gourmandise et de ces dérèglements de ventre. Si on prend, comme par exemple, Le cuisinier royal et bourgeois, qui est un des livres de cuisine du second XVIIe, qui est ce moment capital dans l'histoire de l'alimentation où se met en place la cuisine française réputée, on nous parle bien, là encore, de ce providentialisme chrétien, et sans faire injure à la Providence qui a créé tant de choses pour ses besoins, n'est-ce pas rendre une espèce d'hommage à la main libérale dont on a reçu tant de biens que d'en savoir user de la manière la plus parfaite. Et donc derrière, il y a encore cette idée de comment raisonnablement éprouver du plaisir à table. Et la question qui va être posée par l'Église, c'est comment concilier l'idée d'un péché de gourmandise et à la fois respecter le plaisir alimentaire que l'on reçoit dans un contexte où il n'y a pas du tout l'éloge de la mortification alimentaire. À partir du moment où les péchés capitaux sont enseignés à l'ensemble de la population, qui en gros, pour l'Occident, c'est à partir du XIIIe siècle vraiment qu'on a cette question qui se pose, puisqu'à partir du XIIIe siècle, on va imposer la confession auriculaire des péchés, une confession annuelle. Et donc, à partir du XIIIe siècle, il y a un enseignement de l'Église qui est destiné à l'ensemble des fidèles, et plus uniquement aux ecclésiastiques, on bascule de la notion de mortification à la notion de tempérance qui a été évoquée ce matin et qui est essentielle dans le rapport à l'alimentation dans l'Église chrétienne. L'idée de, alors, pour l'époque médiévale, on parlerait de médiocritas. Médiocrité, c'est-à-dire le juste milieu. Le juste milieu entre ressentir du plaisir et ne pas aller trop loin vers le dérèglement. La mortification alimentaire étant mal vue en réalité par l'Église, parce parce que la mortification alimentaire, ça peut entraîner des péchés bien plus graves et que la gourmandise. Le péché d'orgueil, regardez ce que moi je peux infliger à mon corps pour accéder à Dieu. Donc là, c'est bien plus grave, le péché d'orgueil, que le péché de gourmandise. Et puis la colère. La colère avec un organisme qui est irrité parce que sous-alimenté. Et donc à partir du moment où la détestation de ces péchés capitaux est enseignée à l'ensemble des fidèles, le côté raisonnable, licite, va reposer sur comment essayer de rendre licite le plaisir alimentaire dans le cadre d'une définition du péché de gourmandise. J'ai été très rapide sur le péché de gourmandise, c'est une construction culturelle entre le 4e et le 6e siècle pour les 7 péchés capitaux et notamment le péché de gourmandise. Et si on prend la définition qui est donnée par le pape Grégoire le Grand à la fin du 6e siècle dans les commentaires du livre de Job, le commentaire moral du livre de Job, on nous dit bien quels sont les items, quels sont les éléments qui vont définir le péché de gourmandise, donc en mangeant hors des repas, ce qui veut dire concrètement que dès le Moyen-Âge, il y a une condamnation du grignotage, qui n'est absolument pas une rupture du XXe siècle, contrairement à ce qu'on nous dit. C'est une question qui est soulevée dès le Moyen-Âge, de manger entre les repas. En anticipant l'heure des repas, manger plutôt le plus rapidement possible. Et là, on voit très bien que cette codification, elle vient du milieu monastique, puisqu'il y a une discipline des horaires. Et ça, c'est un élément qui est essentiel dans le contrôle de la gourmandise. L'idée qu'on doit respecter des horaires, c'est une manière de discipliner les corps que de respecter des horaires. Encore aujourd'hui, on mange parce qu'il est l'heure, on ne mange pas parce qu'on a faim. On nous a appris que midi, 19h, c'est le moment où on va passer à la table. On ne mange pas à 18h30, il faut attendre, et c'est 19h ou 19h30 en fonction de vos habitudes. Mais là, c'est vraiment un héritage de l'époque médiévale, sur l'idée qu'il y a des horaires. Il faut respecter des horaires. Et donc l'objectif, c'est de circonscrire le plaisir de la bonne chair uniquement à un moment précis, qui est le moment où on passe à table. Et donc il va falloir codifier ce qui se passe à table. Dans les autres items, vous avez cette idée de en mangeant et en buvant trop, plus qu'il n'en faut. Et donc là, c'est particulièrement intéressant pour les casuistes, parce que trop dépend de votre âge, dépend de votre sexe, dépend de votre position sociale, et donc ça permet d'adapter l'enseignement de l'Église à une société qui est très hiérarchisée, une société médiévale ou la société d'Ancien Régime, une société qui est beaucoup plus hiérarchisée que la nôtre. Il y a la question de l'habilité, en mangeant avec habilité, en se jetant sur la nourriture, qui en plus renvoie à un autre péché capital, qui est celui de l'avarice. Il y a un lien qui est fait entre la personne qui mange trop, qui se jette sur la nourriture, et l'avare qui va récupérer tout l'argent pour lui, et qui ne respecte pas le partage. Et la notion de partage est centrale, évidemment, dans le christianisme. Et la question de du raffinement, en recherchant une préparation soignée, des nourritures plus riches, des mets raffinés, et puis là, c'est tout un jeu d'interprétation, savoir ce qui est raffiné ou pas. Donc la réponse qui va être proposée pour rendre honnête les plaisirs de l'alimentation, ça va être de codifier les manières de table. Ça va être de codifier les manières de table à partir du moment où l'alimentation a lieu uniquement à table. Donc vous avez tout un processus culturel pour essayer de rendre acceptable le plaisir de l'alimentation. Donc là, je projette une gravure de la fin du XVIe siècle qui vous montre une image très idyllique. Personne ne mange comme ça au XVIe siècle. C'est faire attention à l'iconographie pour l'Ancien Régime. Mais on voit que on met en avant l'humanité, le côté humain de quelqu'un qui se contrôle et qui n'est pas victime d'un dérèglement de ventre, qui n'est pas victime de ses appétits. On voit donc là le repas est servi, mais on remercie Dieu avant de manger la nourriture, ce qui est une façon de montrer qu'on n'est pas tenté par la nourriture, puisqu'il y a encore un petit temps, un petit laps temporel, où on ne se jette pas sur la nourriture. Sur cette gravure, on peut voir que cela concerne l'éducation des enfants. Si vous regardez à gauche de la gravure, près de la cheminée, hein, vous avez une nourrice qui est en train de maintenir un jeune enfant pour pas qu'il mange tout de suite, et elle est en train de lui apprendre les règles des bonnes manières, de la civilité. Et ça fonctionne très très bien, cette famille, puisque même les animaux attendent. Hein, vous avez à droite le chien, hein, le chien qui est attend aussi, et surtout à gauche vous avez un chat qui n'est pas très très visible, en tout cas qui est en train de plutôt dormir. Le chat, en principe, dans l'iconographie de l'Ancien Régime, représente des dérèglements de ventre. Il est négatif, le chat, contrairement au chien, dans l'iconographie de l'Ancien Régime. Et là, on voit que le chat est totalement contrôlé également par les bonnes manières. Alors, ces bonnes manières, c'est à replacer dans le contexte tragique. On est en 1690, on est à la fin des guerres de religion, hein, trois décennies de guerre civile en France. Donc, c'est aussi un appel à la concorde civile. Et c'est intéressant que la concorde civile passe aussi par le respect des autres convives. Vous voyez, c'est, l'idée, c'est de montrer aussi que la table doit être un lieu pacifié, et un lieu du vivre ensemble, qui est un élément aussi essentiel dans le cadre des bonnes manières. Alors, ces bonnes manières, c'est un processus de civilisation qui a été étudié pendant l'entre-deux-guerres par un sociologue allemand, Norbert Elias. Globalement, aujourd'hui, on conserve encore son interprétation avec l'idée qu'on a un processus en Occident qui a débuté au XIIe, XIIIe siècle. C'est pas innocent, on retrouve le XIIIe siècle dans cette codification des bonnes manières, et qui progressivement va toucher l'ensemble de la population. Et nous, aujourd'hui, en Occident, nous sommes des héritiers de ce processus culturel qui, en gros, arrive à toucher toute la population à partir du XIXe siècle. Et les habitudes de table que nous enseignons à nos enfants sont issues de ce processus, et ce processus est largement issu du monde ecclésiastique et donc du christianisme, hein, dans le cadre de l'Occident, c'est-à-dire ça vient des mondes monastiques, ça vient également des pédagogues, des moralistes, et on parle d'ailleurs de civilité chrétienne. Hein, civilité chrétienne, la civilité ou l'urbanité, ce sont ces codes de bonne manière. Et les traités de civilité vont surtout parler de la table, de la table comme étant l'endroit où il faut faire attention à la manière de se comporter. Là, je vous donne un exemple du XIIIe siècle, où là, on a une réapparition en Occident des traités de bonne manière. On en avait pour l'Antiquité, ça a disparu à la fin de l'Antiquité et dans les premiers siècles du Moyen-Âge, et ça réapparaît en Occident à partir du XIIIe siècle. Et ça concerne, dans un premier temps, uniquement les élites. Et l'Italie est en avance, hein, dans ce processus qui va toucher après l'Occident. Donc là, ce sont les 50 courtoisies de table, les 50 règles de table, comment se comporter correctement à table. Et vous avez donc un certain nombre de règles. Quand tu as soif, avale d'abord ce que manges, essuie-toi bien la bouche, et puis bois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des traces de nourriture, hein, sur le verre, des éléments qu'on pratique encore aujourd'hui. Le glouton qui boit goulûment avant d'avoir le gosier vide dégoûte son compagnon de table qui boit avec lui. Dégoûte, et ça c'est un élément qui est essentiel, c'est-à-dire que dans les bonnes manières de table, il faut respecter l'autre. C'est avant tout le respect de l'autre, on ne doit pas le dégoûter par son comportement. C'est donc bien de vivre ensemble, de vivre en société, faire société. La table est avant tout une question de société. Quand on mange avec une cuillère, nos doigts bruyamment sirotés, hein, peut-être cette chanson de Brel, elle dit bon, vous voyez, je ne sais pas si on va peut-être être sur ça, mais évidemment, ce qu'il faut éviter, ce qui veut dire aussi qu'il n'y a pas de conversation. Hein. Si on entend les gens manger, c'est qu'il y a un dysfonctionnement dans la famille. Cet homme et cette femme qui sirotent bruyamment leur cuillerée sont comme la bête qui dévore sa pâtée. Et vous voyez qu'il y a cette référence au monde animal. Et ce mouvement se poursuit, hein, au XVIIe, au XIXe. Là, je vous donne un exemple, XVIIe, dans un traité de civilité d'Antoine de Courtin. Alors, le XVIIe, c'est là où la France se pense au centre du monde, donc il y a tout un modèle culturel présenté comme français. Et Antoine de Courtin nous explique bien le principe des manières de table, c'est-à-dire qu'il nous explique bien que le principe, c'est de désanimaliser l'homme, parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu, et donc il faut que l'homme ne se comporte pas comme un animal, Sauf que l'homme, comme l'animal, a des besoins physiologiques. Il doit se nourrir, mais la nourriture, ce n'est pas qu'une question de besoins physiologiques, c'est aussi un apprentissage, donc une culture, et par la culture, on se rapproche de Dieu. Pour les autres actions dont la nature se cache point, donc les animaux, les mammifères, et qui nous sont cependant communes avec les animaux, comme cracher, tousser, éternuer, manger, boire, etc., parce que la raison nous dit naturellement que plus nous éloignons de l'exemple des bêtes, plus nous approchons de la perfection, où l'homme tend par un principe naturel pour répondre à la dignité de son être. La perfection, c'est d'avoir été fait à l'image de Dieu. C'est cet élément-là qui est mis en avant. Et dans la représentation des péchés capitaux, on renvoie toujours à l'animalité. Donc là, vous avez une gravure d'Abraham Boss, qui est un graveur français du début du XVIIe siècle, qui représente l'homme chargé des péchés capitaux. Et vous voyez que l'homme qui ne se rend pas compte qu'il est pécheur, là, est transformé en animal de bas, c'est-à-dire que c'est lui qui devient un animal et qui porte les animaux qui sont les symboles de différents péchés capitaux. Et évidemment, pour la gourmandise, c'est la truie ou le porc qui est l'animal associé au dérèglement de ventre, à la gloutonnerie, à la saleté, à la malpropreté, etc. Encore de nos jours, quand quelqu'un mange mal, il peut y avoir cette référence au cochon ou au porc, ça dépend du registre de langage, mais c'est jamais un compliment que de dire cela. Ce qui est assez injuste, puisque le porc est un animal très propre. Et si vous prenez, par exemple, le traité de civilité le plus célèbre de l'Ancien Régime, qui est le traité d'Erasme, l'humanisme chrétien, Erasme, la civilité puérile, qui est publié en latin en 1530 et qui va connaître après de nombreuses traductions en langue vulgaire et qui va influencer les traités de civilité jusqu'au 19e, début 20e siècle. C'est vraiment un ouvrage essentiel en Occident, l'ouvrage d'Erasme. Vous avez un traité court, 7 chapitres. Le chapitre le plus important, c'est le 4e. Et le 4e concerne les repas et dans les comportements qui sont donc condamné par Erasme, à chaque fois vous avez une référence à un animal, à l'animalité, donc le loup, les cigognes, le chien, le chat, le porc. Vous voyez qu'on est bien sur l'idée que si on se jette sur la nourriture, si on fait du bruit en mangeant, etc., on se rapproche de l'animalité. Il faut donc, par la civilité, séparer de l'animalité. Et c'est dans ce cadre-là qu'on parle de propreté et de civilité. Alors la propreté, il faut comprendre élégance. C'est plus au sens d'élégance que d'un point de vue de l'hygiène. C'est un élément qu'on peut voir, par exemple, sur ce détail d'une gravure française du XVIIe qui représente un repas offert par la ville de Paris, à l'hôtel de ville de Paris, à Louis XIV. Et dans ce repas, on a une scène donc, de repas des élites, et ce que l'on met en avant, c'est la propreté et la civilité. Vous pouvez remarquer qu'on ne représente aucun des personnages en train de manger, ce qui serait une incorrection dans l'iconographie, hein, de représenter un personnage en train d'avaler, d'ingurgiter de la nourriture, ça serait une indécence. En revanche, on a les plats qui sont pleins, on a les assiettes qui sont remplies, et on a les gestes des convives qui nous montrent bien que c'est une scène de repas. On retrouve l'importance des serviettes, donc c'est une façon d'indiquer la propreté, les manières de table. C'est un processus qui est en cours. On voit que certaines personnes consomment la nourriture avec les doigts, ce qui se fait encore à la fin du XVIIe siècle à Versailles, alors que d'autres personnes utilisent des fourchettes. On est vraiment sur ce processus en cours. Je vous mets en parallèle pour bien vous montrer que c'est vraiment une construction progressive. Une lettre de Madame Palatine. Madame Palatine, c'est la belle-sœur de Louis XIV, c'est la deuxième belle-sœur de Louis XIV, qui a laissé une vaste correspondance et qui nous donne énormément d'enseignements sur le fonctionnement de la cour de Versailles. Et elle nous explique qu'on avait par politesse appris au duc de Bourgogne et à ses deux frères à se servir de la fourchette en mangeant, c'est-à-dire les petits-fils aînés, les petits-fils de Louis XIV, dans la famille officielle, il y a 3 petits-fils. Donc eux, on leur a appris à user la fourchette, et lorsqu'ils sont admis à la table du roi, Louis XIV refuse que ses petits-fils utilisent la fourchette parce qu'il trouve ça encore trop efféminé. C'est la raison pour laquelle c'est pas assez viril pour lui. Et madame dit qu'elle aussi, on ne lui a jamais appris à manger avec une fourchette. La génération suivante, hein, si vous êtes à Versailles sous Louis XV, tout le monde mange avec la fourchette. Et c'est progressif et ça se met en place. Et sur cette image, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'on met en avant les visages. Et tous les visages sont sereins. Les personnages nous regardent et les personnages échangent entre eux, ce qui renvoie également au principe de la conversation et ce qui renvoie également à un élément qui est essentiel dans le plaisir de la table, c'est de faire bonne chère. C'est un élément qu'on retrouve déjà chez Erasme dans la Civité puérile. La gaieté est de mise à table, mais non effronterie. Dans un repas, il ne faut ni paraître triste, ni attrister personne. C'est un élément essentiel également du repas qui est un lieu pacifié. Il ne doit pas y avoir de tension à table, sinon le repas ne fonctionne pas. Le partage, l'échange ne fonctionne pas. Et si vous reprenez la première gravure que je vous ai présentée, qui était une gravure donc, sur la Concorde, c'est bien ça l'idée qui est présentée. C'est la table, parce que personne ne va attrister ou agresser une personne lors du repas. Et cette question de la gaieté, c'est ce que, dans la langue française, on va appeler la bonne chère. Alors, la notion de bonne chère, alors le terme bonne chère existe à la fin du Moyen-Âge, existe au XVIe siècle, et dans un premier temps, bonne chère, ça veut simplement dire faire bon visage. Recevoir quelqu'un en lui faisant un bon visage, mais il n'y a pas forcément de la nourriture autour de la bonne chère. À partir du XVIIe siècle, bonne chère, ça renvoie à la nourriture, ça renvoie à la table, et ça renvoie donc à l'expression actuelle de faire bonne chère. Faire bonne chère, c'est faire un bon repas qui implique obligatoirement de faire bon visage et de savoir recevoir correctement ses invités ou de savoir respecter ses hôtes. Il y a cette idée-là, et donc ça passe par le principe qu'on doit faire honneur à la table. Sinon, ce serait une injure à ses hôtes, et que l'on doit respecter les autres convives. Donc, on ne doit pas aborder des sujets embarrassants. Alors, on ne doit pas, par exemple, parler politique, on ne doit pas parler religion, etc. C'est-à-dire tout ce qui pourrait fâcher. Ce qui expliquera pourquoi la nourriture est une façon de trouver un élément de conversation qui, normalement, ne doit pas entraîner de fâcherie à partir du moment où on ne critique pas ce qu'on met dans nos assiettes. Et le terme de bonne chère, ce qui est intéressant, c'est que c'est un aboutissement phonétique qui part du grec kara, donc le village, et qui progressivement va arriver à chère, donc dans le sens de village. Et le terme bonne chère s'est imposé en français très probablement parce qu'il y a une homophonie avec la chair qui est la viande. Et dans un repas, le plat le plus prestigieux, c'est la viande. Dans la culture chrétienne, d'autant plus que l'Église enseigne bien la pénitence par le retrait de ce qu'on appelle le gras, c'est-à-dire la viande. Et donc le fait qu'il y ait cette homophonie entre chair et chair, très probablement explique pourquoi en français, bonne chair s'est imposée, et encore aujourd'hui, avec cette idée de nourriture. Donc si je résume cette première partie, vous voyez qu'en prenant ce frontispice d'une réédition du cuisinier François, qui est le premier témoignage littéraire d'une nouvelle cuisine qui se crée en France, qui est l'ancêtre de la grande cuisine actuelle. Dans ce frontispice, au premier plan, vous avez bien ce modèle autour des bonnes manières et de la table. Donc vous avez des personnes qui sont habillées à la française, vous avez une table avec une profusion de plats, ce qu'on appelle le service à la française pour les élites. Vous avez une personne qui mange seule, mais accompagné et qui fait référence au petit couvert du roi à Versailles. Donc là, c'est un repas solitaire qui ne pose pas de problème parce qu'il n'est pas solitaire dans le sens où il y a un public, c'est-à-dire qu'on ne se soustrait pas au regard pour ingurgiter de la nourriture. Il y a un théâtre, une mise en scène du corps du roi dans le petit couvert. Et surtout, vous avez également une conversation. On voit que l'homme est en train de converser avec une femme, et ce n'est pas innocent qu'on ait mis une femme, puisque ça renvoie à cette idée de la galanterie, au sens de la conversation plaisante. Et ça fait partie totalement de ce modèle qui se met en place au XVIIe dans le cadre français, et c'est un élément qu'on va retrouver également du côté des d'Ecclésiastique, et vous avez un ouvrage qui est capital dans la spiritualité classique francophone, qui est l'introduction à la vie dévote de François de Sales. Cette introduction à la vie dévote qui est une manière de vous indiquer comment vivre votre foi dans le siècle en respectant votre rang. Et c'est un livre capital qui va fortement marquer les élites, puisque c'est une façon de vous indiquer comment vous comporter en chrétien au cours de votre existence dans le siècle. Et cette introduction à la vie dévote, François de Sales évoque bien cette idée de l'échange qui est essentielle au bien-être des hommes, manger, non point pour conserver la vie, ce qui est le premier élément quand même, l'élément essentiel de la prise de nourriture, c'est évidemment de répondre aux besoins physiologiques, mais pour François de Sales, il y a une autre raison, c'est le fait que ça permet de conserver la mutuelle conversation et condescendance que nous nous devons les uns aux autres, ces choses grandement justes et honnêtes. Donc la conversation, c'est bien l'idée de vivre ensemble, cette idée de l'échange, du respect de l'autre, du groupe. La condescendance, ici, il faut comprendre que ce n'est pas un élément négatif. La condescendance, c'est ne pas heurter l'autre, ne pas le mettre mal à l'aise. C'est ça ce qu'il faut comprendre derrière condescendance. Et pour François de Sales, il y a donc cette obligation de tenir table. C'est un élément qui dit, par exemple, au sujet d'un évêque, en disant, serait-il à propos que l'évêque voulut être solitaire comme les chartreux ? Évidemment que non, puisque l'évêque a un rôle à jouer dans le siècle, il doit donc recevoir, il doit tenir table. Ça fait partie du rôle que lui a donné Dieu, et la table joue un rôle important. C'est un élément qu'on va retrouver dans les lettres de Madame de Maintenon. Madame de Maintenon est très influencée par l'œuvre de François de Sales, elle a une approche salésienne de la table. Et elle le dit, par exemple, pour l'évêque de Chartres, qu'elle trouve un peu trop zélé dans la privation, dans la mortification, et elle considère que ce n'est pas du tout bon signe pour son statut. Et elle dit bien, vous êtes évêque, il faut recevoir du monde, il faut qu'on puisse coucher chez vous, il faut qu'on y trouve un bon siège, etc. Donc il y a cette idée que la table doit être présente, et que c'est normal dans les relations entre les hommes d'avoir ce moment de convivialité. Et dans d'autres lettres, Madame de Maintenon, un conseil à lecture de l'introduction à la vie dévote aux demoiselles de Saint-Cyr, qui sont des futures femmes mariées de la noblesse, et donc des futures maîtresses de maison, et qui devront tenir leur rang, et donc savoir également recevoir et prendre aussi en compte les plaisirs. Dans la deuxième lettre, celle que vous avez à droite, on a bien cette idée des plaisirs les plus innocents. Et donc ces plaisirs, on va également les retrouver les jours de pénitence alimentaire, ce qui peut parfois nous surprendre. On a fantasmé ce qu'était le jeûne et l'abstinence dans la culture catholique. Si vous prenez la fin du Moyen-Âge et l'Ancien Régime, c'est encore vrai au XIXe, en réalité, on change simplement la nourriture, la viande est remplacée par le poisson, mais on va continuer à montrer son plaisir alimentaire en consommant des poissons les plus fins, en consommant des sucreries, en consommant des gaufres, etc. C'était ça, la pénitence, la mortification alimentaire pour une grande partie de la population, pour les élites, hein. Pour les élites sous l'Ancien Régime et le XVIIe, sauf quelques cas très très poussés, assez mal vus. On se dit, mais c'est un peu trop zélé sur la mortification. Là, vous avez donc une chanson d'un entourage de Madame de Sévigné, hein. En jour maigre comme en jour gras, vive l'hôtel de Chaune, tous les jours des mets délicats, des poissons longs d'une aune, etc. On voit bien qu'il n'y a pas de différence entre les jours maigres et les jours gras. Tout simplement parce qu'on garde la même culture, le même plaisir de table, et sous l'Ancien Régime, on peut avoir des festivités alimentaires les jours maigres, ça pose aucun problème. Et derrière, alors, les protestants, évidemment, dans la controverse protestante, vont critiquer ce comportement en disant c'est bien la preuve d'une religion superficielle, etc. C'est partie des thèmes la controverse protestante, mais c'est un contresens en réalité sur la signification de ce qu'on appelle on espère maintenant le maigre gastronomique, hein, c'est-à-dire comment respecter à la lettre l'interdit de la viande mais pas à l'esprit. L'idée c'est de tenir table pour tenir son rang, tenir table pour tenir son rang, c'est-à-dire c'est de montrer dans l'alternance maigre-gras qu'on est catholique, tout en conservant son statut social. C'est un élément qui est essentiel dans ce rapport à la table. Alors, là, je vais surtout parler des élites, hein, puisqu'on a une construction des bonnes manières de table dans un premier temps à partir des élites, et le repoussoir sont évidemment les classes populaires, et ce repoussoir nous montre bien ce qui est condamné par les bonnes manières. Donc, exemple, sur ce tableau des sept péchés capitaux, fin du XVe siècle, si vous regardez bien le bouton, il est seul à table. Il est seul à table. Son épouse, probablement, lui apporte une volaille qui ne sera pas partagée. Alors, on sait que la volaille ne sera pas partagée, tout simplement parce que le glouton est seul à table, et au fond, vous avez un couteau qui est dans son fourreau. Donc le couteau n'ayant pas été sorti du fourreau, ça prouve bien qu'on ne va pas partager la volaille. Et donc, vous avez derrière cette condamnation du gourmand qui prend tout pour lui et qui ne respecte pas le principe du partage. Alors, qui peut être un partage inégalitaire. Si vous prenez la volaille, le principe de la volaille, c'est que tout le monde n'a pas le même morceau. C'est-à-dire qu'il y a la cuisse, il y a le blanc, etc. Mais c'est un élément qui est essentiel pour souder un groupe. Il y a le partage, et le morceau que vous recevez vous indique votre position dans le groupe. Pensez au poulet du dimanche, par exemple, dans les familles, qui repose sur ces éléments-là et sur les préférences de chacun. Plus ou moins, hein, on essaye d'adapter. Et ça, c'est typique de la notion de partage, que ne respecte pas le glouton, qui va prendre pour lui toute la nourriture. La mauvaise gourmandise, c'est également la saleté. Alors, sale goinfre est un pléonasme en français. Un goinfre, par définition, est sale. Et cette saleté des goinfres, on la voit bien sur ce tableau italien, les mangeurs de ricotta. Il y a plusieurs copies qui existent, donc on en a dans plusieurs musées européens, où vous avez donc trois personnages masculins et un personnage féminin. Les trois personnages masculins sont en train de manger de ce fromage blanc, de cette ricotta, et ce que vous voyez en fait, c'est le même geste. Il y a un qui est en train de saisir de la ricotta avec donc, cette cuillère qui est plus proche d'une louche. Vous avez ensuite le bras qui se lève au milieu et donc la ricotta qui va être ingurgitée. Et enfin, celui qui a le bonnet rouge sur la tête a déjà de la ricotta dans la bouche, il ressort de la bouche puisqu'il en a trop pris. Et il y a évidemment une scène qui est grotesque, on le voit à l'attitude des personnages. On voit également que les dents sont visibles, les dents sont noires, mais ce qui est assez logique hein, pour toute la population, les dents sont gâtées hein, sous l'Ancien Régime, aussi bien les nobles que les paysans, mais normalement on ne les montre pas. Et si vous prenez, par exemple, Jean-Baptiste de La Salle, qui est un des grands classiques de la civilité chrétienne, un ouvrage qui va être réédité au XVIIIe, XIXe et encore en partie au XXe, il y a bien cette idée que c'est inconvenant de montrer ses dents, hein, de montrer ses dents. Et on retrouve encore une logique de providentialisme chrétien, avec l'idée hein, que les lèvres sont là pour cacher les dents. Chose qu'on ne montre pas et chose qu'on ne respecte pas ici, puisqu'on montre les dents. En plus, la blancheur de la ricotta permet de souligner la noirceur des dents. Et on voit l'orifice, hein, le côté obscène en fait, de l'orifice qui est montré, qui est aussi une façon d'évoquer les péchés de bouche, puisque ce qui est plus grave, c'est ce qui sort et pas ce qui entre, hein, c'est-à-dire le blasphème, les propos lestes, etc. Et si vous regardez bien la ricotta, hein, vous avez trois trous sur la ricotta qui renvoient à une tête de mort, et donc qui fait évidemment référence au péché. Mais le péché, il n'est pas uniquement un péché de gloutonnerie, c'est un péché de chair dans les deux sens du terme, puisque vous avez de l'autre côté, donc à droite, hein, vous avez une femme, bien en chair et surtout avec une poitrine bien visible et qui a autour du cou un collier en corail, une perle de corail qui n'appartient pas du tout à son milieu social. Vous avez donc très probablement affaire à une professionnelle de l'amour tarifé et donc vous avez derrière une référence à la sexualité. Et donc vous avez derrière cette glaciation entre le ventre et le bas-ventre qui est l'élément condamné par l'Église. L'idée que un excès va en entraîner un autre, sachant que la gourmandise est un péché véniel. Ce sont les conséquences du péché de gourmandise qui peuvent entraîner vers un péché capital. Et les conséquences qui entraînent vers un péché capital sont présentées dès Grégoire le Grand, dès le VIe siècle. Joie bête, proximité, perte de pureté, loquacité excessive, affaiblissement des sens. Et donc ça renvoie au péché de bouche et à la sexualité, hors mariage et hors corps, conception, dans le cadre légitime du mariage. Et donc là, c'est bien ce qui est représenté ici. Autre élément qui va être condamné, c'est le côté obscène du glouton. Alors, le glouton est différent du goinfre. Enfin, le glouton, c'est celui qui mange trop. On peut cumuler, hein. Vous pouvez être goinfre et glouton. Le glouton, c'est celui qui se fait des joues de hamster, fait qu'il se met de la nourriture un peu partout. Et là, vous avez donc cette représentation avec les mangeurs de bouillie, hein, des côtés de la peinture flamande, avant vous aviez une peinture italienne. Et on voit bien que cet homme est obscène parce que donc il a les joues qui sont bien gonflées, hein, et son visage reprend furieusement le derrière du bouc que vous avez en bas en fait. Hein. Il y a un parallèle qui est fait entre les deux qui renvoie à l'animalité. Et le glouton, c'est donc celui qui mange trop et qui ne respecte pas là encore le partage. Si vous prenez par exemple le Don Quichotte, hein, de Cervantes, Hidalgo, quand il donne des règles de bonne manière à Sancho Panza, qui est le gueux, l'ignore, le vilain, s'il ne connaît pas les règles de la civilité, il lui dit bien, on ne mange jamais les deux joues à la fois. On ne mange jamais les deux joues à la fois, c'est-à-dire qu'on ne se met pas trop de nourriture en bouche. Et ce qui est également condamné, ce sont les crevailles. Hein, les crevailles, c'est-à-dire ces repas où l'on va manger jusqu'à être malade. C'est le sens de crevaille, donc les termes en aïe sont négatifs. Là, vous avez une allégorie de gula, donc le gosier en latin, qui est le terme qui est utilisé en latin pour définir ce que les Français ont traduit par gourmandise. Donc, au premier plan, vous avez une femme qui représente cette gourmandise. On voit qu'elle va engloutir une volaille. Donc, on retrouve l'idée de l'absence du partage de la volaille. On voit que le ventre est très visible. Hein, le ventre est très visible puisqu'il est à l'air libre. Et un pan de son vêtement va souligner le bas-ventre. Hein. Donc, on voit bien le lien qui est fait entre le ventre et le bas-ventre. Et derrière, vous avez une scène de repas où la première personne est en très très fort, une forte corpulence, une obésité, qui est là pour évoquer cette idée du ventre qui va crever parce qu'on a trop mangé. Et là, vous avez derrière une référence à ce qu'on appelle le temps des noces dans la culture médiévale ou encore la culture des peuples modernes, à savoir ces moments où on fait bonne chère, les moments où l'on va surconsommer. Hein, surconsommer. Là, c'est un élément, par exemple, d'une noce dans les campagnes nantaises à la fin de l'Ancien Régime, où cette voyageuse anglaise est surprise de voir la quantité de viande. Et c'est un élément qui est essentiel, c'est-à-dire que quand on marie ses enfants, il faut qu'il y ait de la nourriture, et de la nourriture en abondance. Et ça, c'est un élément qui va être condamné par l'Église, en pensant que ça peut remettre en question ce que devrait être réellement le temps de noces. C'est un élément qu'on voit chez François de Sales, hein, qui évoque ces possibles dérèglements, où l'on évoque donc ces mille dérèglements en passe-temps. Donc passe-temps, il faut comprendre la danse, hein, la danse où les corps peuvent se toucher, les festins, donc la nourriture et les paroles. Et donc les paroles, ce sont les chansons à boire, et puis peuvent aller jusqu'au blasphème. Et donc, c'est condamné par François de Sales. Et c'est un élément qu'on retrouve également dans les expressions habituelles d'époque moderne, où on parle des noces pour envoyer à des gens qui se sont enivrés. Et donc, vous avez ce rapport à une forme de convivialité qui repose sur une notion d'excès qu'on retrouve dans différentes ères de civilisation. C'est pas propre à l'Occident chrétien. C'est un élément qui avait été souligné par l'anthropologue français Marcel Mauss dans un livre très célèbre sur le don, les trois temps du don. Il évoque cette idée qu'il y a des moments où ça fonctionne parce que les convives sont obligés de manger et d'accepter la nourriture qu'on leur donne, et le mariage repose sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'on doit inviter, et les invités doivent faire bonne chère. Et on doit donc leur présenter suffisamment de nourriture. C'est un élément que l'on voit, par exemple, dans ce proverbe français du XVIIe siècle. On ne dîne point le matin quand on est de noces le soir. On ne dîne point le matin quand on est de noces le soir, parce que ce serait une grande impolitesse de ne pas manger. On doit se remplir la panse, au sens propre. On doit vraiment profiter de la bonne chère, et ça fait partie d'un jeu social. Le jeu social, c'est vraiment, je marie correctement mes enfants, en invitant le plus de monde et en ayant le plus de nourriture possible, ce qui est un signe de bonne augure pour le mariage. C'est le futur couple, c'est une façon de dire qu'il ne connaîtra pas la pénurie. En tout cas, c'est un signe qui veut mettre le couple dans un rapport à la nourriture qui ne sera pas un rapport contraint. Donc on ne dîne point le matin quand on est de noces le soir, et ça peut aller à l'époque moderne jusqu'à réellement rechercher le trop-plein. Donc là vous avez une gravure qui illustre des proverbes, et là on voit donc un homme qui boit du vin, trop de vin, et qui est malade. Et vous avez réagi selon la civilité classique, les bonnes manières de table, c'est-à-dire un rejet, un retrait et une forme de dégoût. Mais peut-être qu'on peut le comprendre autrement, et pour la population, c'est l'idée que si on arrive au trop-plein, jusqu'à être malade, c'est qu'on a bien profité. C'est qu'on a suffisamment mangé. Et c'est un élément qu'on voit, par exemple, dans ce proverbe 17e, « enfant jetant, enfant bienvenant ». À l'époque moderne, on suralimente les enfants, et le nouveau-né, on considère que le nouveau-né a eu suffisamment à manger quand il renvoie. Quand on arrive au moment où l'enfant renvoie, c'est qu'il a, on lui a rempli l'estomac. Et donc, c'est ce que l'on cherche à faire, qu'on retrouve dans « bien buvant, bien mangeant » pour les adultes. Et cet élément n'est pas du tout compris par les élites, marquées par le processus de cession des mœurs et par les civilités classiques, qui considèrent que ça, c'est bien la preuve d'un dérèglement de ventre. En réalité, si on essaye de comprendre, sans prendre les lunettes d'un Jean-Baptiste de La Salle, d'un Courtin ou d'un Erasme, et qu'on essaye de comprendre ce comportement, c'est un comportement à replacer dans une vie qui est particulièrement difficile. Dans une vie où il y a des disettes, où il peut y avoir des famines. En France, on meurt de faim jusqu'au règne de Louis XIV, il y a des grandes famines jusqu'au règne de Louis XIV. Il y a cette idée que ce moment, c'est un moment où on vit, où c'est la vie qui prend le dessus, et on retrouve dans cette expression que le diable soit chuchoté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la vie qui gagne. Peut-être que dans 3 jours, 4 jours, il n'y aura plus de réserve alimentaire, mais là, c'est la vie qui gagne, dans ce cas-là, de plus organique. D'où l'idée de se remplir la panse. Et cet élément va essayer d'être pris en compte par les traités de civilité et par une manière d'essayer d'améliorer la gourmandise en modifiant l'anatomie du gourmand afin de pouvoir montrer que le plaisir alimentaire, c'est vraiment autre chose. Et cet élément va essayer de renverser l'anatomie de la gourmandise, c'est-à-dire que jusqu'au 16e, 17e, l'anatomie de la gourmandise est uniquement vers le bas du corps, avec une descente qui est avilissante, où on va du gosier, c'est là où on ressent du plaisir, hein, dans la logique de l'époque médiévale et moderne, vers le bas du corps, et on va essayer de valoriser le haut du corps. Et le haut du corps, c'est-à-dire le palais et le cerveau. Avec l'idée que le palais donc évite de faire du bruit, hein, contrairement à d'autres organes, hein, puisque l'idée, c'est de rendre le corps le moins bruyant possible, voire évacuer tous les bruits naturels qui accompagnent les actes, l'acte alimentaire. Donc on va essayer de nier, en fait, cette physiologie, et valoriser une intellectualisation du plaisir alimentaire par le haut du corps. Et c'est un élément qu'on voit à partir de la seconde moitié du 17e, où de plus en plus on nous parle du palais. Du palais qui est là pour analyser les aliments et qui permet de renvoyer au haut du corps. C'est un élément qu'on peut voir par exemple dans les frontispices de l'almanach des gourmands de Grimaud de la Reynière, qui est le père de la critique gastronomique, c'est le premier auteur à faire de la critique gastronomique, où on voit bien que dans l'environnement, le gourmand est associé, vous voyez, à une bibliothèque. Alors, sur les rayonnages, ce sont des victoires, mais c'est bien l'idée du livre qui est mis en avant, hein, de l'homme de goût qui a le bon vocabulaire. On le voit également dans le deuxième frontispice, où vous avez une réunion d'un jury de gourmands qui est en train d'évaluer les nourritures. Et donc, il y a tout un travail d'intellectualisation du fait alimentaire qui permet de rendre honnête le plaisir de l'alimentation avec derrière l'idée qu'il y a un langage, qu'il faut un langage pour parler de la nourriture. Et ce mouvement est un mouvement qui est parti d'Italie, du 15e siècle, dans un ouvrage majeur qui est l'ouvrage de l'humaniste Platina, de l'honnête volupté et de la bonne santé, qui est un ouvrage qui parle sérieusement de la nourriture. C'est la première fois qu'on a un ouvrage qui parle sérieusement de la nourriture et qui n'est pas un traité médical. C'est un ouvrage qui va faire un lien avec des recettes de cuisine, avec l'Antiquité, les auteurs de l'Antiquité, et donner quelques règles diététiques pour montrer que c'est réellement un sujet sérieux. On n'est pas dans le burlesque, on n'est pas dans le carnavalesque, on n'est pas dans du rabelais, on est dans comment peut-on parler sérieusement de la nourriture et comment peut-on éprouver honnêtement des plaisirs d'alimentation. Et le Platine va être adapté en français en 1505. Et ce Platine en François est particulièrement intéressant parce qu'il intègre dans la culture française le discours italien sur la gastronomie, qui va ensuite être totalement francisé. Il y a de l'ADN italien dans la culture alimentaire française, mais il faut le rechercher, cet ADN, dans le discours, la manière de parler sérieusement de la nourriture. C'est un élément qu'on voit chez Grimaud de la Reynière lorsqu'il évoque un texte de Montaigne, où Montaigne, dans les essais au XVIe, aborde une rencontre qu'il a eue avec un maître d'hôtel italien. Et ce maître d'hôtel italien lui évoque la manière de préparer les salades, la manière de préparer le repas, et il présente ça comme si c'était un point de théologie. Et Grimaud de la Reynière prend ce texte-là en disant c'est bien la preuve qu'il y a un progrès dès le XVIe siècle autour du discours, la manière de parler de la nourriture. En fait, si on prend le texte de Michel de Montaigne, c'est un texte ironique. Montaigne se moque de ce maître d'hôtel italien et s'est placé dans les essais dans un sous-chapitre qui s'appelle de la vanité des paroles. De la vanité des paroles, ce qui prouve bien que pour Montaigne, c'est ridicule de parler ainsi. Et quand on évoque, on fait un parallèle entre la manière d'assaisonner les salades et un haut point de théologie, il faut quand même se replacer dans le contexte de guerre de religion pour comprendre évidemment l'ironie de Michel de Montaigne. Grimaud de la Reynière ne comprend pas l'ironie, tout simplement parce que ce qui est exotique pour Michel de Montaigne est totalement français pour Grimaud de la Reynière. C'est-à-dire que ce discours, qui ne passe pas au XVIe, au XVIIe, XVIIIe, il est naturalisé sur les bords de la Seine, et il fait partie de la manière normale de parler l'alimentation. Et donc, cette manière de parler va valoriser les convives, c'est-à-dire que les convives sont valorisés à partir du moment où ils ont le bon vocabulaire pour parler de la nourriture et pour parler du plaisir alimentaire. Et c'est là où on voit dans ce processus culturel toute l'importance du langage, savoir correctement parler de la nourriture. Et on a derrière donc cette question de peut-on ou pas parler de nourriture à table. Alors qu'il y a tout un processus qui valorise qui va valoriser le rapport à l'alimentation et le rapport à la connaissance. C'est un élément qu'on voit dans le vocabulaire qui est utilisé pour définir les personnes qui ont une connaissance, les amateurs de la bonne chère. Pour le Moyen-Âge, on a deux termes qui sont utilisés, le terme de friand, mais qui peut avoir une connotation sexuelle, et gourmet, qui est le spécialiste, celui qui sait tester la qualité d'un vin. À cela, le 17e français va rajouter le terme de coteau. Le coteau, c'est celui qui connaît l'origine des produits. Et c'est un élément essentiel dans les plaisirs de la table, savoir reconnaître la qualité d'un produit et sa provenance. Encore aujourd'hui, le petit vin, le petit producteur, etc., c'est partie des éléments de conversation. Ça, c'est un élément qui est déjà présent en fait, au XVIIe, avec cette image positive du coteau qu'on va retrouver dans le grand nombre de la littérature, comme Bossuet, comme chez Madame de Sévigné, comme chez Boileau, etc. Et qui va permettre d'avoir l'image du gastronome. Et cette image du gastronome qui se met en place au XIXe avec Grimaud de la Reynière, avec Brillat Savarin et Derchaux pour le terme de gastronome, repose en grande partie sur le discours. Comment parler de l'alimentation et donc parler de l'alimentation. Or, les traités des bonnes manières et, la position donc, de l'Église étaient contre cette idée de parler de nourriture, de parler de nourriture à table, avant ou après. C'est un élément qu'on voit par exemple chez François de Sales, hein, où on évoque bien qu'il ne faut pas s'entretenir par parole et pensée de la nourriture. Hein. C'est un élément qui est condamné, parce qu'en fait ça revient au même principe que d'anticiper l'heure de manger. C'est-à-dire qu'on retrouve cette idée qu'on ne penserait qu'à la nourriture et donc on ne penserait qu'à son ventre. D'où cette condamnation hein, de parler de nourriture. C'est un élément qu'on retrouve dans les traités de civilité, comme celui d'Antoine de Courtin, où on dit bien que, un, on ne critique pas la nourriture et qu'il ne faut pas parler sans cesse de mangeaille. Et là, la question, c'est est-ce que ça veut dire ne pas parler de nourriture ou ne pas avoir le bon vocabulaire pour parler de nourriture ? Puisque mangeaille, en français, est péjoratif. Hein. Comme ripaille, comme crevaille, c'est un registre péjoratif. Donc est-ce que là, c'est une façon de dire que si on a le bon langage, on peut quand même parler de nourriture. On a des témoignages qui prouvent qu'on parle de nourriture dans les milieux considérés comme les plus éduqués. Là, vous avez un exemple d'une scène qui se passe dans l'hôtel de Rambouillet. L'hôtel de Rambouillet, c'est un salon du 1er 17e qui a été une matrice hein, vraiment de la société de cour et du bon goût à la française. Et vous avez donc, on rapporte une histoire du comte de Guiche à qui on va servir exprès des aliments qu'il n'aime pas. Et dans le discours, on comprend qu'à table, on évoque la nourriture, on évoque le côté croustillant de la viande. Et on apprend également qu'avant, on a fait parler le comte de Guiche pour savoir ce qu'il n'aimait pas. C'est bien la preuve que pour l'hôtel de Rambouillet, donc cette matrice du bon goût, on parle d'alimentation et qu'on ne respecte pas donc, les règles de la civilité. Dernière règle, et je terminerai là-dessus, qui est manger ce qui sera mis devant vous. L'idée, peut-on être difficile à table ou pas ? C'est une vraie question et qui est vraiment cruciale aujourd'hui, sur cette question de est-ce qu'on mange ce qu'on a devant nous ou pas ? Alors, les règles ont évolué. Pour le Moyen-Âge, 16e, début 17e, on admet encore qu'on peut avoir un dégoût pour un aliment, et donc dans ce cas-là, on peut le laisser de côté. Mais cette règle disparaît dans la seconde moitié du 17e, où on considère qu'on mange ce que l'on vous met dans l'assiette, que ça fait partie de la bonne éducation, et cette règle vient probablement des communautés religieuses, et notamment des communautés religieuses féminines, où dans les règles ecclésiastiques, on a clairement indiqué que l'on doit manger ce que l'on met dans l'assiette. Or, les femmes des élites étaient formées en grande partie dans les couvents, et donc là, vous avez très probablement un lien à prendre en compte sur cette règle de civilité qu'on va retrouver chez Jean-Baptiste de la Salle, sur ces règles de civilité, où on dit bien que la plupart des dégoûts sont totalement imaginaires. Ça, c'est important de garder surtout aujourd'hui, de comprendre cette idée de dégoût qui serait totalement imaginaire. Et donc, il faut se forcer, enfant, à manger ce qu'on n'aime pas pour éviter des fautes de goût quand on sera mis à table avec des adultes. Et donc, ça, c'est une règle qui s'est mise en place à partir de la fin du 17e. Et dans les règles de civilité, c'est probablement la dernière qui se met en place dans ce processus culturel. Et je vais terminer sur cette règle parce que c'est probablement celle qui est mise le plus en question aujourd'hui avec le développement de ce qu'on appelle les alimentations particulières. Et comme j'ai parlé du providentialisme chrétien, il me semblait intéressant de terminer par cette caricature publiée donc, aux États-Unis en 2010 sur le dernier sens divin, où vous avez une famille qui est réunie mais personne ne mange la même chose, parce que vous êtes celui qui est allergique au glucose, celui qui est allergique au lactose, celui qui est allergique au gluten, celui qui est vegan, celui qui est végétarien, etc. Et cet élément est important par rapport à ce que je vous ai présenté, parce que ça remet en question l'idée du groupe. C'est-à-dire, peut-on faire groupe si on ne mange pas la même chose? Peut-on faire groupe si on ne partage pas le même plat? Je vous remercie de votre attention.
Moi, je voudrais vous en poser une que vous avez un peu effleurée à propos des noces, etc. Mais c'est l'ensemble des repas de fête, des autres fêtes, etc. Et par rapport à comment la religion concilie le être ensemble et le pas trop dans l'ensemble des repas de fête. Voilà, ça c'était ma première question.
Vous avez entièrement raison. Alors, c'est vrai dans toutes les religions, hein, les fêtes religieuses sont aussi des fêtes alimentaires. Il y a un repas. Si vous prenez le christianisme, une fête religieuse est obligatoirement un jour gras. Il ne peut pas y avoir un jour maigre qui tombe sur une fête religieuse. Et vous avez obligatoirement un repas qui sort de l'ordinaire pour montrer le côté exceptionnel de la fête. Donc on a plein d'exemples. Je peux vous donner comme exemple l'épiphanie. Si vous prenez l'épiphanie, on ne parle pas de galette des rois, mais on parle de gâteau des rois. Et dans notre documentation, les gâteaux des rois, on est sûr que ça existe au moins depuis le XIIIe siècle. Parce qu'on a des cris de Paris, qui sont des cris des vendeurs ambulants, qui évoquent notamment les gâteaux des rois. Le gâteau des rois, c'est du pain. Donc c'est pas rien le pain dans le christianisme, évidemment. Et qui est un pain qui va être enrichi avec du beurre et des œufs, ce qui montre bien le côté exceptionnel. C'est-à-dire qu'on ajoute des ingrédients festifs. Le beurre, c'est essentiel dans cette culture qui est une culture hypophile. C'est des gens qui veulent manger du gras. Donc le fait de rajouter du beurre, c'est évidemment un élément important. L'œuf est également un aliment symbolique. Et l'épiphanie, le gâteau des rois, c'est vraiment le gâteau qu'on partage. Là, c'est vraiment un partage avec le groupe, et qui en plus va jouer sur une hiérarchie. Celui qui a la fève, s'il y a un côté, c'est le début de carnaval en réalité, l'épiphanie réellement sur l'ancien régime. C'est-à-dire que c'est bien avant ce que nous on appelle carnaval aujourd'hui, ça commence tout de suite à partir de l'épiphanie, avec un jeu sur la hiérarchie. Et on sait que pour le Moyen-Âge et l'époque moderne, lorsqu'on partageait le gâteau des rois, il y avait toujours une part qui était laissée de côté, qui était la part dite des pauvres. Donc on retrouve le principe de charité. Donc l'abondance, la charité, c'est un élément qui est essentiel. Et avec l'idée également que ce sont des jours qui doivent être de bon augure pour la suite de l'année. Et c'est également à replacer dans des sociétés qui sont des sociétés de pénurie. Contrairement à nous, aujourd'hui, nous sommes globalement en Occident dans une société de l'abondance. Pour l'époque médiévale, l'Ancien Régime, même encore le 19e, ce sont des moments compensatoires, essentiels, qui permettent de vivre une vie quotidienne qui est difficile, très difficile. La vie est fragile sous l'Ancien Régime, il y a toujours un risque d'augmentation du prix des céréales, etc. Et donc il y a ces moments compensatoires qui reviennent en plus régulièrement et qui sont respectés par la population. Et on voit même au moment de la réforme que du côté protestant, il y a un certain nombre de fêtes religieuses qui vont être conservées avec les repas, notamment en décembre, puisque sous l'Ancien Régime, vous avez ce qu'on appelle le cycle des 12 jours, qui va de Noël à l'Épiphanie, qui était le moment de la bonne chère. Et ça va être respecté aussi du côté protestant, ce qui montre bien que c'était quand même très très important dans le le fonctionnement de cette société. Il y a quelques sectes puritaines qui vont vraiment refuser cela, mais sinon, globalement, le monde protestant va aussi conserver ses quêtes.
Oui, bonjour, merci beaucoup de votre intervention, c'est réellement passionnant. J'avais une petite question au sujet du dernier repas de Jésus, par rapport au fait de celui qui a mis la main dans le plat et celui qui a trahi Jésus. Et ma question c'est, est-ce que vous avez des indications sur les gestes qui à table traduisent une intention particulière ?
En fait, on a dans Erasme, par exemple, on dit que celui qui met ses trois doigts dans la salière et qui laisse l'empreinte des trois doigts dans la salière met les armes du vilain. Donc je pense que ça va dans ce sens-là. Surtout que le sel, c'est pas innocent non plus hein, dans la culture chrétienne. Donc on a ces références-là, effectivement, 16e, 17e, sur ce. C'est-à-dire qu'ils sont d'autant plus condamnables que normalement le repas est un moment pacifier où il n'y a pas de trahison normalement au moment du repas. Bon, il y en a une célèbre dans le christianisme, mais normalement le repas est un moment où il y a une confiance entre les convives, puisqu'on boit ensemble, on mange ensemble. Pensez à l'étymologie de compagnons, ceux qui partagent leur pain. Et là encore, le pain, c'est la base de l'alimentation. Et donc derrière, il y a l'idée que si on mange ensemble et qu'on boit ensemble, on partage les mêmes valeurs. C'est un élément important, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on passe à table avec le groupe, on montre un consensus, qu'on respecte les mêmes valeurs, d'où la condamnation de ces gestes comme celle de ces trois doigts dans la salière.
Moi, j'ai une question et une observation. Une question. Là, vous avez développé, c'est tout à fait passionnant, ce qui concerne la dimension solide de l'alimentation. Est-ce que des études semblables ont été faites autour de la question de la partie liquide ? Ça, c'est ma question. Et alors, une observation, moi, il y a une quarantaine d'années, j'ai quand même pas mal vécu en Afrique, en milieu rural, paysan, au Burkina, chez les Mossi. Et alors là, ce qui m'avait toujours beaucoup frappé, c'est à quel point, quand on reçoit quelqu'un, eh bien, c'est le liquide, c'est la boisson qui est essentielle. La nourriture solide, on considère ça d'une façon, bon, c'est pour les enfants, c'est les bébés qui en ont besoin. On ne fait pas de repas solide. On reçoit quelqu'un, c'est tout du liquide. Voilà. Alors, et cet équilibre, entre l'équilibre vin et pain, liquide et solide dans la tradition chrétienne, il y a une sorte d'équivalence, de valeur, et bien voilà, qu'est-ce qui s'en met ailleurs, c'est autrement.
Donc, alors effectivement, il y a des règles aussi autour de la boisson. Alors, il faut replacer également le christianisme. Autour de la question des tabous, dans le christianisme, il n'y a pas de tabou absolu. En tout cas, les tabous qui existent dans l'Ancien Testament sont levés par le Nouveau Testament, puisque rien n'est impur en soi, à l'exception du sang aliment et de la viande des sacrifices païens, qui va disparaître assez rapidement en Occident, ce qui veut dire concrètement qu'il n'y a pas d'aliments interdits. Et donc ça concerne également la boisson. Donc la boisson est prise en compte dans les traités de civilité où on montre bien qu'il faut être modéré. L'usage, si on est en Espagne, en France ou en Italie, c'est de couper le vin avec de l'eau. Normalement, le vin n'est là que pour se désaltérer, il faut faire attention à l'ivresse. Et la manière classique de représenter dans les arts la tempérance, c'est de représenter une femme qui verse de l'eau dans une coupe où il y a du vin. Si vous rappelez les gravures que je vais présenter de la gourmandise, elle tient également, l'allégorie tient une coupe, et c'est une façon de dire que son vin ne sera pas coupé avec de Lourdes. Donc il faut faire attention à l'ivresse, hein, l'ivresse qui fait partie de la définition du péché de gourmandise. C'est un élément qui est vraiment mis en avant, et si vous prenez les traités de casuistique ou les catéchismes du 18e, on voit qu'on insiste quand même essentiellement sur l'ivresse. Donc, quand on parle de gourmandise, c'est vraiment cette idée de l'ivresse, c'est la perte de contrôle de soi. Et dans les traités de civilité, on apprend notamment aux enfants à ne pas trop boire. On nous indique le nombre de verres que l'on a droit dans le repas et le moment où on peut boire. Pour bien montrer que ce n'est pas la boisson qui nous intéresse, mais la boisson est essentielle dans cette convivialité. Par exemple, les collations, ce qu'on appelle les collations, qui sont des moments de bon accueil. Les collations, il y a deux types de collations. Vous avez les collations des jours de jeûne, où normalement il n'y a qu'un seul repas. Et en réalité, dès la fin du Moyen-Âge, il y a une collation également qui est proposée. Et dans cette collation, il y a du vin. En principe, il y a du vin. Et dans les collations de bon accueil, quand vous recevez, on propose des vins, on propose des eaux de vie, etc. Donc il y a toute une sociabilité autour de la boisson, mais avec toujours cet idéal de la modération, de la tempérance. À l'époque moderne, l'Europe, sous l'Ancien Régime, on considère que les Allemands, les Polonais sont des ivrognes parce qu'ils ne coupent pas le vin avec de l'eau. Et ils ne comprennent pas. Les Français ne comprennent pas pourquoi on ne coupe pas le vin avec de l'eau. Et ce qui explique pourquoi, dans les clichés que l'on a sur différentes populations, on considère que les Allemands et les Polonais sont des gens qui vont vers l'ivresse. Il n'y a pas cette idée de modération que l'on peut avoir du côté occidental pour l'époque moderne. Alors après, ce discours-là va évoluer sur le fait de couper avec de l'eau à partir du moment où se développent les grands crus au sens actuel du terme. Les grands crus, en gros, on parle de grands crus à partir des années 1660 en France, avec Aubryon, Margaux, Lafitte, etc. Les grands crus qu'on connaît dans le Bordelais, c'est quelque chose qui se met en place dans la seconde moitié du 17e, et là, ça commence à bouger un petit peu pour les élites, où là, on ne va pas couper avec de l'eau. Mais c'est vraiment un moment en cours et qui va être accompagné du langage, comment parler correctement du vin. Parce que là aussi, il y a tout un discours, et c'est probablement pour le vin que le langage a été le plus développé. Et c'est pas innocent. Pour rendre licite hein, ce plaisir, et le terme gourmet, je l'évoquais très très rapidement, le gourmet, pour l'époque médiévale, c'est le valet qui teste la qualité du vin. Donc pour nous, ce serait l'œnologue. Et le terme gourmet, qui existe au féminin également, on parle de gourmette hein, à l'époque moderne, c'est la personne qui a les connaissances. Et donc, c'est jamais un terme négatif. Hein, parce qu'il y a la notion de connaissance, qui est une façon de rendre acceptable la gourmandise, à partir du moment où on a le savoir. Et donc, on se rapproche de Dieu et non de l'animalité.
Vous n'avez pas du tout évoqué l'idée de poison. Et Dieu sait si le poison, c'est quelque chose qui est utilisé au moment des repas et les goûteurs.
Alors, vous avez raison, donc là, c'est uniquement pour les élites, hein, pour vraiment les élites. Et effectivement, fin Moyen-Âge, 16e, 17e, on a des goûteurs pour les grands, y compris le pape, hein, pour éviter les empoisonnements. Et vous avez donc une procédure à suivre pour être sûr que le plat ne soit pas empoisonné. Pour les élites, on a des cuisines privées. Pour le pape, par exemple, on parle du cuisinier secret. Le cuisinier secret, c'est le cuisinier qui ne travaille que pour le pape. Donc c'est une façon de garantir. Et vous avez une autre cuisine qui va préparer pour les autres convives. On a la même chose à la cour de France, où on a ce qu'on appelle la cuisine bouche, qui est la cuisine du roi. On a la cuisine bouche de la reine, de la dauphine, etc., qui est une manière de garantir la sécurité des plats. Les plats arrivent couverts à table. Là encore, c'est pour éviter les risques d'empoisonnement. Et avant de passer, d'être servi aux convives, vous avez des personnes qui goûtent pour être sûr qu'il n'y a pas de poison. Et c'est un élément qu'on voit dans les cours européennes jusqu'au XVIIe siècle, en fait, hein, cette idée de prendre des garanties. Vous avez également des pierres précieuses qui sont là pour garantir qu'il n'y ait pas de poison. Vous avez les cornes de licorne. On considère que la licorne existe hein, au XVIe siècle. Au XVIIe, on ne croit plus, hein, mais au XVIe, on en est sûr. Et on pense que si on plonge la corne de licorne dans du vin, si le vin contient du poison, tout va se troubler parce que la licorne, c'est la pureté. Donc il y a également cette magie qui existe à la Renaissance, mais qui va disparaître progressivement hein, au XVIIe siècle. Ouais, sur les poils.
Oui, à propos de la tempérance, vous avez parlé du péché de mortification, oui. Du péché d'orgueil à propos oui. de la mortification. Qu'en est-il aujourd'hui de la position de l'Église ? Est-ce que vous savez par rapport au jeu de...
Honnêtement, je suis probablement le moins compétent ici pour. Je pense qu'il y a des personnes ici qui doivent pouvoir en parler. En tout cas, moi, pour ma période, ce qui me paraît vraiment essentiel, c'est de voir que l'Église n'est vraiment pas favorable à la mortification. Donc, parce que derrière, il y a cette idée de l'orgueil et de la colère, et puis il y a un risque d'homicide, c'est-à-dire qu'on peut s'affaiblir et mourir. Et donc, ça pose également. Problème. Et on voit très très bien que dans le discours, en tout cas pour l'époque médiévale, l'époque moderne sur laquelle moi je travaille, que le discours de l'Église est vraiment sur la tempérance, la modération. C'est un élément essentiel. C'est-à-dire que l'Église n'aurait jamais pu imposer à toute la société un idéal de mortification. Ça aurait été impossible. Après, vous avez des adaptations. Cette adaptation, on la voit très bien par exemple avec l'interdit du sang aliment. Normalement, le sang aliment est interdit également par le Nouveau Testament, mais en Occident, on consommait le sang aliment, et on voit bien que le christianisme, là, s'est adapté, et que on peut consommer sans difficulté du boudin noir ou l'autre. Mais je laisse la parole à Rassal, s'il y a une question pour...
Oui, bonjour, merci pour ce bel exposé. J'avais une question sur vos images de... par rapport à la goinfrerie, à la gourmandise, où on voit la personne seule à table, ne partageant pas. Mais à côté, on voit une autre personne qui semble boire goulûment. Alors, je voulais savoir si c'était par rapport à l'essai de vin pour ne pas empoisonner, ou si c'était un visage de l'ivresse par rapport à la gourmandise.
Alors, c'est un visage de l'ivresse. C'est une façon d'indiquer les... deux définitions possibles de la gourmandise, donc la gloutonnerie et l'ivresse. Et si vous reprenez ces images-là, on va très très loin sur les conséquences physiologiques de l'ivronnerie, en fait, avec le visage émacié, la maigreur, le laisser aller, etc. Il y a tout un thème également qui relève de l'économie familiale, c'est le mauvais père qui dépense son argent au cabaret. Mais il y a ce discours-là aussi qui existe. Et l'ivresse est toujours représentée. Au Moyen-Âge, quand on veut représenter un glouton, un gourmand, vous avez la viande rôtie et le pichet de vin, ou éventuellement, si on est en Angleterre, le pichet de bière. Mais l'alcool est toujours représenté.
Oui. Vous faites le lien entre la culture et la nourriture. Hein, bien manger, c'est pareil, surtout, c'est un peu comme si une question un peu culturelle. Vous parlez de la gloutonnerie, je vais vous montrer un peu le côté caricatural. La question, parce que ça m'interpelle, si vous voulez, sur le fait que souvent la gloutonnerie est le comportement de gens qui parfois ont eu faim, n'ont pas eu à manger, hein, et parler de la nourriture et du bon comportement à table, c'est quand on a de la nourriture disponible, accessible et qu'on n'a pas été touché par la faim. Mais quand on a vécu avec des gens qui ont eu faim, on comprend parfois qu'effectivement ces gens sont des gloutons. Hein. Je rappelle simplement qu'à la fin de la dernière guerre, les gens qui avaient été en camp de concentration, qui en sont sortis, certains sont morts parce qu'ils mangeaient trop. Ils n'arrivent pas à se retenir.
Vous avez entièrement raison, c'est ce que j'ai essayé de montrer quand j'ai évoqué les temps de noces et ces espaces compensatoires. Mais à un moment, j'ai évoqué ces ripailles, ces crevailles, etc. Et c'est effectivement lié à ce qu'on appelle une culture de la faim. La culture de la faim qui n'est pas forcément une faim physiologique, mais qui est la peur du manque. C'est-à-dire qu'une personne qui a manqué de nourriture toute sa vie va avoir cette peur du manque. Et ça, c'est un cadre quotidien de l'immense majorité de la population au Moyen-Âge, sous l'Ancien Régime, des personnes qui ont pu connaître des temps de privation lors des deux conflits mondiaux du XXe siècle. Vous avez entièrement raison. Mais ce que je voulais montrer, c'est que dans ce processus de situation des mœurs, les élites ne comprennent pas ce moment compensatoire parce qu'elles n'ont pas à se soucier de l'approvisionnement alimentaire. En revanche, si vous prenez avant le 12e, 13e siècle, il y a, y compris pour les populations qui n'ont pas faim, des comportements de gloutonnerie et de goinfrerie. C'est-à-dire qu'il y a un processus culturel qu'on appelle le processus de civilisation de l'appétit qui fait qu'on va ne pas se jeter sur la nourriture, on va moins manger, etc. Mais ce n'était pas au départ un comportement qui était présent parmi les élites du Moyen-Âge, hein, en tout cas des premiers siècles du Moyen-Âge. Là, c'est vraiment un élément qui se met en cours, qui se met en place, et cet élément qui se met en place va avoir comme conséquence de renforcer le fossé social entre les élites et le reste de la population. Alors qu'aujourd'hui, en Europe occidentale, globalement, on a les mêmes manières de table. Ce n'est pas le cas au XVIIe, XVIIIe. Maintenant, sur le côté privation et culture de la faim, on le voit par exemple avec des personnes qui vont avoir des gestes, comme par exemple mettre la main sur le pain. Moi, j'ai des souvenirs d'avoir fait un colloque et d'avoir déjeuné avec une collègue qui venait d'Algérie, et pendant tout le repas, elle a eu sa main sur son morceau de pain. C'est bien un trait d'une culture de la faim. C'est-à-dire que elle a dû manquer de nourriture, ou sa famille a dû manquer de nourriture, et on lui a inculqué ce geste-là, que les autres convives n'avaient pas, qui, eux, venaient d'une société plutôt d'abondance. Donc c'est pour ça que c'est de la culture. En fait, l'alimentation, c'est vraiment de l'histoire culturelle. C'est pour ça que les historiens peuvent travailler dessus. C'est pas que biologique. L'intérêt pour les sciences humaines et sociales, c'est qu'on est au cœur d'un apprentissage et d'un savoir, et donc au cœur d'une culture. Après, la difficulté, c'est de ne pas être dans le jugement. Moi, je n'ai pas à vous dire si tel comportement est bon ou bien, pas du tout mon travail d'historien, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi il peut y avoir des repas où on va aller jusqu'à se rendre malade. Et donc là, ça passe par cette notion de culture de la faim.
S'il vous plaît.
Oui.
Est-ce que dans...
Je suis là.
J'ai le voisin en train. Est-ce que dans la littérature, il est évoqué le végétarisme, le véganisme ?
Alors, après, ça dépend pour quelle période. Le végétarisme, vous allez l'avoir quand on évoque certaines communautés monastiques qui peuvent proscrire la viande. On a par exemple l'abbaye de la Trappe en Normandie, qui est un modèle d'alimentation qui repose essentiellement sur des végétaux. On a Port-Royal des Champs aussi, on a cette réflexion-là. Vraiment qu'on peut retrouver également dans la littérature, par exemple, si vous prenez chez Rousseau, on a des passages où on évoque l'alimentation saine des enfants qui repose sur, qui devrait reposer sur des laitages, sur des légumes, etc. Donc ce discours existe. Pour le véganisme, c'est quelque chose quand même de beaucoup plus récent. Mais ce qui est végétarien, on a des témoignages dès l'Antiquité. Dès l'Antiquité grecque, on a un discours qui repose sur l'alimentation végétarienne.
Dans votre exposé, que j'ai trouvé d'ailleurs très brillant, l'œuvre de Rabelais, et notamment tous les excès de nourriture qui sont mis en avant, est-ce que c'est une œuvre satirique pour critiquer les puissants qui vont continuer malgré la tolérance, ou est-ce que c'est le signe d'un affrontement entre une église catholique et toute sa culture qui voudrait aller dans la modération et la privation par rapport à des usages ?
Alors, il y a un côté satirique, hein, évidemment, chez Rabelais. C'est à replacer dans le contexte du XVIe, donc il y a une référence au comportement alimentaire des élites. Rabelais, c'est un médecin aussi, hein, donc obligatoirement, il y a une réflexion sur la diététique de l'époque, et donc il joue également là-dessus, et ça renvoie aussi à cette manière qui était la manière médiévale de parler de l'alimentation. C'est-à-dire qu'il passe par l'outrance pour pouvoir parler de l'alimentation, parce que pas encore totalement considéré comme un sujet sérieux. Donc c'est aussi une façon de pouvoir parler de l'alimentation et du plaisir alimentaire en passant par le grotesque, en passant par le carnavalesque. Pensez par exemple aux batailles d'andouilles, des choses comme ça que vous avez dans Rabelais. Donc qui plonge dans une tradition littéraire médiévale et qui joue avec les interdits et qui joue avec l'enseignement de l'Église.
Oui, je réagis par rapport à la diapo et à la caricature qui est à l'écran. On peut s'en émouvoir, on peut se questionner, on peut regretter une époque où on mangeait tous la même chose autour d'une table, mais on peut aussi s'en réjouir de cette diapo. Pourquoi ? Aujourd'hui, on a encore une table et des chaises à l'écran. Et en fait, il y a des comportements dans certains pays, en particulier aux États-Unis, à New York, ou dans les appartements, aujourd'hui, on supprime les tables et les chaises, on supprime l'espace du repas collectif, on se dit qu'on va manger dans sa chambre, on se dit qu'on va manger devant la télé. Pour citer les propos d'un promoteur, aujourd'hui, les appartements sont conçus à New York pour glander devant Netflix. Et donc, je pose ma question, ne serait-il pas intéressant d'étudier ces évolutions de comportement ? Je ne sais pas si ça relève de vos champs d'intérêt, mais je trouve extrêmement préoccupant la suppression de l'espace correspondant au repas partagé, qu'il soit en famille ou entre amis.
Oui. C'est pour ça que j'avais mis cette image en dernier. Mais, alors, vous avez tous les travaux des sociologues de la société Sola. Il y a beaucoup de sociologues qui travaillent sur l'alimentation. Et je pense notamment aux travaux du sociologue français Claude Fischer, qui a fait un très très bon livre qui s'appelle L'Omnivore, qui a été publié de mémoire en 1990, qui est... C'est mieux, désolé. Donc, je reprends depuis le début. Alors, pour répondre à la question qui vient d'être... Non, ça va.
Attendez.
Sinon, je peux forcer sur la voix, j'avais tous des enfants. Non. D'accord. Donc, je vous renvoie aux travaux des sociologues. Donc, travaux des sociologues, et je pense notamment aux travaux de Claude Fischer, qui est un sociologue français donc, qui a publié en 90 un livre qui s'appelle L'Omnivore, et il a travaillé notamment sur une comparaison entre l'Amérique du Nord et la France et l'Italie pour voir s'il y avait un lien entre la culture religieuse et la culture de table. Et on voit bien que dans le monde anglo-saxon, il y a une plus grande liberté qui est octroyée à l'individu, qui explique le fait qu'on mange de moins en moins ensemble, ou on mange quand on a faim et quand on veut, et que chacun pile le frigo quand il arrive, alors que dans les pays de culture catholique, comme la France et l'Italie, ça se maintient davantage, même si c'est remis en question. Là, ça a l'air mieux. Hein. Donc, dans l'étude qu'a fait Claude Fischer et ses étudiants, c'est une comparaison entre les États-Unis et la France et l'Italie. Et il s'est intéressé au rapport à la table. Est-ce qu'on mange ensemble ou pas ? Est-ce qu'on accepte ou pas les alimentations dites particulières ? C'est comme ça qu'on les appelait en France au moment de son étude. Et il est arrivé à ce constat qu'il y avait vraiment une différence entre les pays anglo-saxons de culture protestante qui mettent davantage en avant l'individu la liberté de l'individu, donc le fait que l'individu peut manger quand il souhaite, et on ne respecte pas forcément cette, ce qu'on pourrait qualifier de communion de table, être ensemble à un moment précis, alors que dans les pays de culture catholique, les pays latins, comme la France et l'Italie, ça se maintient. Même si c'est remis en question, même si ça recule, on a quand même nettement un maintien. Et moi, je vois dans ma profession, quand on travaille avec des anglo-saxons, ils nous imposent la pause repas très très courte, avec plateau repas pour ne pas perdre de temps parce qu'il y a des réunions, etc. Alors que quand je travaille avec des collègues italiens ou espagnols, on va prendre notre pause repas et on sort du bureau et on discute entre nous, mais dans un cadre qui est un cadre convivial, qui n'est pas le bureau avec son sandwich, où on va tout de suite continuer à travailler. Donc, apparemment, il y a une influence religieuse, culturelle, hein, sur cet élément.
Oui. Pourriez-vous nous donner quelques informations sur le positionnement de l'homme par rapport à la femme ? Dans la préparation des repas, dans le positionnement à table. Voilà.
Alors après, ça dépend et des pays, ça dépend des milieux sociaux. Globalement, la nourriture, la préparation de la nourriture relève du féminin lorsqu'on est dans le domestique. Ça, c'est un élément qui est certain. En revanche, pour les élites, ce sont des hommes qui cuisinent. C'est-à-dire que dès le Moyen-Âge, les cuisiniers des familles aristocratiques sont des hommes. Et si vous prenez les livres de cuisine rédigés, publiés en France à l'époque moderne, ils sont tous publiés par des hommes. Et c'est un élément qui va jouer un rôle important. C'est même plus en Italie. Hein. En Italie, ce ne sont que des hommes également qui publient des livres de cuisine qui en rédigent au Moyen-Âge, on connaît les noms, et qui en publient pour l'Ancien Régime. Et c'est un élément qui est important, ça permet d'anoblir le fait culinaire par le masculin dans une société où on considère que seul l'homme est créateur. On considère que... Alors, je dis bien dans la société, je ne juge pas, il y a cette idée que la femme ne pourrait que imiter à la perfection, mais que le créateur serait un homme, et donc la grande cuisine ne pourrait relever que de l'homme. Et le fait que... Le micro n'aime pas, parce que j'aborde des choses là-dessus. Et le fait que l'écriture, c'est une écriture masculine de ces livres de cuisine, a joué un rôle dans l'anoblissement du fait culinaire et l'association de la cuisine aux beaux-arts. Dès le XVIe siècle, vous prenez le monde allemand ou le monde britannique, on a des femmes qui écrivent des livres de cuisine, mais la cuisine n'aura pas le même statut. Sur les places à table, là, ça dépend vraiment des milieux sociaux. On peut avoir des cas où la femme est debout et elle ne mange pas avec les hommes et elle va les servir, et d'autres cas où elle est à table avec les hommes et il y a un plus grand partage. Maintenant, dans le cadre de la civilité, elle repose également sur conversation, et la conversation obligatoirement repose sur la présence en ligne. C'est-à-dire qu'on est dans une culture où on considère que la conversation, c'est une politesse destinée aux femmes. Et c'est pour ça que les conversations dans les milieux des élites viennent du salon, de la culture du salon, la culture aristocratique du salon. Et si vous vous rappelez la gravure que j'ai rapidement commentée d'un repas présentant Louis XIV à l'hôtel de ville de Paris, il y a des femmes à table. Et c'est essentiel parce qu'ils vont pouvoir échanger, ils vont pouvoir discuter. Mais on peut très bien avoir des repas de cour, il y a des tables pour les femmes et des tables pour des hommes. Hein, c'est pareil, ça dépend vraiment de la festivité et puis du rang des convives. Mais la montée en puissance de l'importance de la conversation fait qu'il faut qu'il y ait une mixité pour que réellement on soit dans ce plaisir de la conversation.
Oui, j'ajoute mes remerciements à tous ceux qui vous ont déjà été adressés. Vous avez fait un lien très fort entre culture et alimentation, et puis vous avez parlé un petit peu aussi de religion. Alors moi, ma question porte plutôt sur ce côté-là. Comment expliquez-vous que les religions, en général, je parle de toutes, s'intéressent au contenu de notre assiette, et surtout dans le sens de l'interdit?
Non.
En fait, ça s'explique par le fait qu'une religion, c'est ce qui relie, ce qui fait le groupe, ce qui fait la communauté. Et une communauté, elle a besoin de partage, de moments où elle se retrouve ensemble. C'est l'importance de la grande messe le dimanche, par exemple, où la communauté se regroupe. Et à table, ça veut dire que plusieurs fois par jour, on se regroupe, on est ensemble. Et si on a les mêmes interdits, ça prouve qu'on partage les mêmes valeurs ou les mêmes, le même rapport au monde. C'est ça qu'il faut prendre en compte derrière ces différents interdits. Et si vous prenez les tabous, si vous prenez les... En gros, le judaïsme, le christianisme et l'islam, hein, qui viennent quand même du même, même foyer culturel. Hein, c'est quand même, on s'aperçoit que si dans le christianisme, il y a très peu de tabous, c'est qu'il y a énormément de tabous dans le judaïsme. Hein, c'est vraiment un contre-pied. Et ça, on le voit très très bien dans les évangiles. On voit très très bien qu'il y a cette idée de se séparer des autres pour créer son groupe. Hein, et comme on va se séparer par rapport au judaïsme, et puis dans le judaïsme, il y a énormément de tabous alimentaires, vous n'en avez quasiment pas dans le christianisme. Et si vous prenez l'islam qui arrive après et qui va devoir se positionner notamment par rapport au christianisme, bah dans l'islam, on retrouve les tabous, moins nombreux que dans le judaïsme, mais quand même très nombreux, et beaucoup plus nombreux que dans le christianisme. Donc le tabou, il est identitaire, c'est le vivre ensemble et le fait qu'on partage ses valeurs. Et en plus, l'alimentation, il faut bien voir, c'est un des premiers éléments de sociabilisation de l'enfant. Le jeune enfant, on l'éduque avant tout à partir de l'alimentation. Et donc, c'est une façon de lui inculquer tout de suite son appartenance, son identité. Et c'est pour ça que toutes les religions ont un discours concernant l'alimentation. Parce que l'alimentation, c'est ce qu'il y a de plus quotidien, de plus toute votre vie, hein, et dès votre enfance. Donc obligatoirement, ça ne peut que être pris en compte hein, lorsque l'on veut créer un groupe, une communauté.
Est-ce que, en plus d'être historien brillant, vous êtes aussi sociologue et est-ce que vous vous intéressez au monde d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez écrit sur notre rapport à la nourriture aujourd'hui? Et en fait, où sont nos références, où sont nos règles? Voilà.
Moi, donc, je suis spécialiste donc, de l'Ancien Régime, mais je crois à l'intérêt de la longue durée dans l'histoire. Je pense que pour comprendre un événement, on est obligé d'être sur la longue durée, hein, et que cette longue durée, c'est en amont et en aval, pour pouvoir vraiment apprécier. Sinon, bah, on a tous le même défaut en histoire de croire que tout apparaît sur sa période de prédilection. À un moment où moi je travaille sur l'Occident à l'époque moderne, je suis obligé de regarder ce qui s'est passé avant, et je suis évidemment obligé de regarder notamment la position de l'Église dès les premiers temps et comment ça se met en place pour pouvoir apprécier ce qui est un héritage et ce qui est nouveau, puisque le travail de l'historien, c'est d'apprécier ça. Pour un historien, contrairement à un anthropologue, par exemple, pour un historien, une société traditionnelle n'existe pas, dans le sens où une société est toujours en mouvement. Et donc, pour comprendre le mouvement, il faut savoir ce qui s'est passé avant, ce qui se passera après, pour pouvoir apprécier. Donc, je m'intéresse à ce qui se passe aujourd'hui, notamment aux travaux autour de l'alimentation, soit par les historiens contemporanéistes, soit par les sociologues, les économistes ou autres. Dans l'ordre des colloques ou des journées d'études, en principe, on travaille quand même sur différentes périodes, puisque ça permet d'apprécier. Vous voyez, la caricature que je vais présenter du dernier scientifique, on ne peut la comprendre que si on regarde ce qui s'est passé et ce qu'est le scientifique à l'origine. Sinon, on ne comprend pas totalement cette caricature. L'époque contemporaine, c'est aussi une façon de réfléchir sur les questions qu'on peut poser à une période plus ancienne. On a cet adage en histoire que toute histoire est contemporaine, dans le sens où les questions qu'un historien pose sont des questions de sa société, du moment où il vit. Moi, les questions que je pose, c'est les questions de quelqu'un qui est né à la fin du XXe, qui vit au XXIe. C'est des questions qui n'étaient pas posées il y a 60, 70 ans. Par exemple, on a énormément travaillé sur les peurs alimentaires. Et ça, les peurs alimentaires, ça a été un impact de la crise de la vache folle. Concrètement, la crise de la vache folle a fait réfléchir les historiens sur cette question des peurs alimentaires, et qui n'était pas uniquement la question des quantités. Parce que pendant très longtemps, l'histoire était sur l'idée que la question, c'était une question de quantité. Donc on ne prenait pas en compte la qualité. La crise de la vache folle, c'était aussi la question de la qualité, et les questions d'hygiène, etc. Et on a commencé à poser ces questions-là pour l'Antiquité, pour le Moyen-Âge, pour l'époque moderne. Et donc c'est pour ça que on ne sait pas quelles seront les questions qui sont posées dans 30 ans. Ça fait partie de l'intérêt de l'histoire, de cette science qui est une science en mouvement. Et tant mieux. On posera d'autres questions, on aura d'autres résultats. Maintenant, sur mes résultats, j'essaie de varier. À la fois, j'ai des livres qui sont vraiment sur ma spécialité universitaire. Et de temps en temps, je me fais plaisir avec de la longue durée. Par exemple, sur l'histoire du jardin potager, je vais du Moyen-Âge à nos jours. Et sur l'histoire du péché capital de gourmandise, je suis allé des premiers temps du christianisme à nos jours. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir la construction du péché, puisque pour un historien, c'est une construction culturelle, de voir un petit peu comment ça se met en place et quelles ont été les réactions de la population pour pouvoir quand même légitimement ressentir du plaisir. Puisque travailler sur la gourmandise, c'est poser la question du plaisir et est-ce qu'une société accepte ou pas par rapport au plaisir. Et je suis allé jusqu'au 21e siècle, tout simplement parce que si on prend par exemple les publicités alimentaires du second 20e siècle, elles reposent essentiellement sur un héritage judéo-chrétien. C'est-à-dire qu'on tourne autour du péché, hein, sur les publicités autour des barres chocolatées, des glaces, etc. Il y a toujours une référence qui est une référence qui renvoie à cette idée d'un péché possible, d'une tentation, etc. Et moi, ce qui m'avait intéressé, c'est de voir que des sept péchés capitaux, c'est probablement la gourmandise qui a été la plus laïcisée en quelque sorte, parce que vous avez un discours social qui est très, très dur, hein, sur la question de la gourmandise, et notamment ce qui est présenté parfois comme des dérèglements avec un discours qui est culpabilisant, et qui oublie totalement le plaisir. Quand moi j'ai publié ce livre en 2008, j'ai été invité à des colloques de médecins et de diététiciens parce qu'ils aimaient qu'on leur parle du plaisir alimentaire. Il ne faut pas oublier que l'alimentation, comme ça a été très bien dit, je crois que c'est un jésuite, un sermon d'un jésuite au 18e, on n'est pas du côté de la médecine, on n'est pas du côté du médicament, on est du côté du plaisir. Si on oublie le plaisir, obligatoirement il y a un dysfonctionnement alimentaire. Par exemple, prenez l'importance de la mastication. Pour avoir le sentiment de satiété et un sentiment de bien-être, il faut mastiquer. Et c'est pour ça que dans les EHPAD, c'est catastrophique de servir une alimentation de purée entièrement broyée, y compris à des gens qui n'ont pas de problème de dentition. Parce que pour le bien-être, on a besoin de mastiquer. Et ça, c'est un élément à prendre en compte si on va du côté du plaisir alimentaire et comprendre un peu le fonctionnement. C'est-à-dire que j'ai travaillé également avec des médecins qui travaillent sur ces questions-là pour savoir comment physiologiquement on peut ressortir le plaisir. Et ce qui m'intéresse, c'est de confronter ça également avec le discours médical du Moyen-Âge ou de l'Ancien Régime. Pour le Moyen-Âge, l'Ancien Régime, on pense que le plaisir est lié à un chatouillement et que c'est lié au gosier. Et donc, quand vous mangez, la nourriture descend et vous chatouille, et plus ça chatouille, plus vous prenez du plaisir. C'est là. Et c'est pour ça que dans l'iconographie de la Renaissance, quand on présente un glouton ou un gourmand, il y a un grand coup, un très grand coup. C'est une façon d'indiquer que cette personne est une personne gourmande.
Merci beaucoup, merci infiniment. On a répondu à votre question.